Le dispositif de chômage partiel prolongé par une allocation exceptionnelle de maintien à l'emploi, nous avons fait le point ce matin avec Christopher Gigès qui était notre invité. L'IUT de Nouvelle-Calédonie a fêté hier ses 10 ans d'existence. 1800 étudiants ont été formés au sein de ces deux départements. Dans la région, Canberra risque de s'attirer les foudres de la Maison-Blanche. L'Australie a décidé de ne pas augmenter son budget défense. En métropole, François Bayrou donne un nouveau délai aux partenaires sociaux pour trouver un accord sur les retraites. L'opposition l'accuse de gagner du temps. Et puis en sport, le départ des premiers athlètes calédoniens vers Palau. La cérémonie d'ouverture des mini-jeux du Pacifique aura lieu dimanche soir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ses titres, un coup d'œil sur le magazine Transparence que l'on retrouvera dès la fin de cette édition. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera cette semaine Didier Leroux.
Oui, Didier Leroux qui est l'invité de Transparence, chef d'entreprise, ancien élu de la province et du Congrès, fondateur et président de plusieurs partis non indépendantistes. Didier Leroux reste un observateur très attentif de la vie politique et économique calédonienne. Alors nous l'interrogerons sur son analyse de la situation. Un an après les violences de mai 2024 et à quelques jours maintenant du sommet de Paris. On se retrouve donc d'ici une demi-heure en compagnie de Didier Leroux. Ce sera juste après votre édition.
Et on vous retrouve évidemment à 16h45 pour le Club Politique Radio Rythme Bleu.
Et au sommaire de ce Club Politique, l'invitation d'Emmanuel Macron au sommet sur la Nouvelle-Calédonie à partir du 2 juillet. Nous essaierons de décrypter les termes de cette invitation, son format, et nous nous interrogerons sur les résultats que l'on peut en attendre et sur les réactions que suscite l'organisation de ce sommet. Nous ferons également un point sur la situation économique de la Nouvelle-Calédonie avec les notes de l'IOM et de l'ISEE et les dernières initiatives prises par le gouvernement et par la province sud. Et puis nous évoquerons également le conflit entre Israël et l'Iran. Un club politique qui débute cet après-midi à 16h45.
Et puis l'actualité politique toujours, et la proposition de Manuel Valls doit servir de plancher de négociation pour la suite des échanges. C'est la position de l'Union calédonienne à quelques jours du sommet de Paris. Le mouvement réunissait hier sa commission exécutive élargie pour préparer la convention du FLNKS qui se tiendra le 28 juin à Puebo et pour donner suite à l'invitation du président de la République. L'Union calédonienne réaffirme la nécessaire poursuite du dialogue et elle prend acte du projet posé par le ministre Valls au nom de l'État. Elle souligne que ce projet a recueilli l'approbation de la majorité des délégations présentes à Deva et qu'il constitue la dernière étape vers la souveraineté. L'UC prend acte également d'un espace d'échange sur la situation économique et sociétale, mais elle affirme rester vigilante sur le format des parties et les parties prenantes à ces discussions. Elle réaffirme enfin que la stabilité nécessaire à la reprise d'activité économique ne pourra être garantie qu'à la condition qu'une solution politique soit trouvée, solution qui, pour elle, doit mener vers l'affirmation de la souveraineté.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier et 83% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le sommet sur la Nouvelle-Calédonie convoqué à Paris par le président de la République à partir du 2 juillet sera déterminant pour l'avenir. Ils sont 17% à penser qu'il ne sera pas déterminant. Voici notre question du jour. L'accord interprofessionnel qui prévoit la baisse de prix d'un certain nombre de produits de première nécessité ou de grande consommation aura-t-il selon vous un impact sur le pouvoir d'achat des Calédoniens ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Cet accord interprofessionnel pour la modération des prix est un sujet que nous avons évoqué ce matin avec Christopher Gigès. Le membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, du numérique et de l'énergie était notre invité ce matin à 7h30. Et nous sommes aussi revenus avec lui sur la fin du chômage partiel spécial exaction au 30 juin prochain, Nicolas Legrand.
Oui, 5000 personnes sont concernées. Le gouvernement et les partenaires sociaux ont donc préparé un texte pour prendre le relais. Il doit maintenant être soumis au Congrès pour une entrée en vigueur au 1er juillet. Et puisqu'il sera examiné après cette date, il devrait y avoir un effet rétroactif. L'idée de ce dispositif est en fait d'en faire un outil de relance, nous a dit Christopher Gigès.
C'est un texte qui est issu de l'accord qui a été signé entre les partenaires sociaux et le gouvernement pour prendre la suite du chômage partiel. On avait une demande de l'État qui était purement et simplement que d'augmenter le chômage de droit commun. On a décidé avec les partenaires sociaux que cette enveloppe, elle n'était pas destinée à financer des chômeurs sans dispositif d'accompagnement. Donc on a proposé un dispositif de maintien avec une allocation spécifique pour les entreprises, pour maintenir leurs compétences au sein de l'entreprise, et un dispositif de retour vers l'emploi, parce qu'il y a des entreprises qui retrouvent de l'activité, et donc on veut les inciter à réembaucher, et là on fait une exonération de charges patronales jusqu'à la fin de l'année. C'est un dispositif qui est financé jusqu'à la fin de l'année, je crois que c'est important de le dire, et notamment sur la partie dotation de l'État. On devait avoir une enveloppe chômage, on l'a transformée en une enveloppe emploi, plus un certain nombre de dispositifs qu'on proposera prochainement, notamment sur la reconversion vers le salariat ou vers l'entrepreneuriat.
Et par ailleurs, Christopher Gigès revient de Paris où il a participé au salon Vivatech avec la délégation calédonienne. Un événement qui a été une franche réussite selon lui.
Vivatech, c'est le plus grand salon mondial de la tech et de l'innovation. Et on peut se dire, qu'est-ce que la Nouvelle-Calédonie, petite île du Pacifique, va faire dans ce type de salon? Ça fait 3 années successives qu'on y est. Là, on avait un double objectif. Le premier objectif, c'était de montrer que la Nouvelle-Calédonie redevenait attractive, qu'il y avait une politique de diversification économique, qu'on était dans un élan d'investissement et d'une volonté de faire venir des investisseurs en Nouvelle-Calédonie. On était situé au milieu de l'allée principale, au milieu du stand d'LVMH, de Capital, PMG, de Meta, Facebook, du Japon et de la Corée. Donc, au niveau de visibilité et d'attractivité, on était là. Deuxième objectif qui était vraiment business, c'était que les startups qu'on emmène puissent avoir des contrats. Il y a eu des prises de contact et des contrats qui ont été dans le bon sens. Et moi, je suis très fier d'avoir des startups calédoniennes qui sont sélectionnées parmi les meilleures du salon, qui sont les meilleures du monde. Très, très grande réussite et surtout une très grande fierté, un an après les émeutes, d'être allé là-bas.
Et lors de ce séjour à Paris, Christopher Gigès a également participé à la finalisation du projet de centrale de stockage d'électricité qui sera construite à Bouloux-Paris. La société privée AQO a confirmé un investissement de 9 milliards de francs.
Un investisseur privé dans le contexte actuel qui vient poser 9 milliards sur la table, je pense qu'il y a quelques mois, on n'aurait pas dit ça. J'ai vraiment voulu qu'on puisse mettre en valeur cet investissement parce qu'il va y en avoir d'autres dans les prochains mois. Mais cet investissement, il a surtout du sens parce qu'il va permettre de continuer la transition énergétique et de baisser le prix de l'énergie, notamment pour les métallurgistes et pour les Calédoniens, de verdir le mixte énergétique et il va donner du travail. C'est 500 millions qui vont rentrer à minima juste en droits de douane, juste sur l'import de marchandises. Mais c'est entre 30 et 40 personnes qui vont être embauchées sur site pour aller construire. Et on va continuer à sortir un certain nombre de chantiers parce que c'est bien les chantiers publics. Hein. Enfin, c'est bien de mettre de la subvention et faire du chantier public. Moi, je veux qu'il y ait des investisseurs qui reviennent en Nouvelle-Calédonie, qui croient en la Nouvelle-Calédonie, qui créent des emplois en Nouvelle-Calédonie. Et c'est notre job chaque jour pour ça. Ça va être la plus grande centrale batterie de France et d'Europe. Comme quoi, il y a des choses positives qui se passent en Calédonie.
Et la mise en service de cette centrale de stockage d'électricité d'AQO est prévue pour 2027. Une interview de Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, du numérique et de l'énergie, à retrouver en podcast sur notre site internet.
En bref, la CMA rend public son bilan d'activité 2024. Une année riche en actions dans une période économique mouvementée pour les 10 778 entreprises artisanales du territoire. La Chambre de métiers et de l'artisanat a intensifié ses missions d'appui en mettant notamment l'accent sur la réactivité, l'écoute et la proximité. Près de 4200 artisans ont ainsi été accompagnés sur des sujets allant de la création d'entreprises à l'économie circulaire. La CMA a également poursuivi son activité de formation des jeunes avec plus de 284 alternants formés, malgré la destruction en mai des locaux de son centre de formation de Nouville. Enfin, une réorganisation interne de la chambre consulaire a été opérée pour rationaliser son offre de services et ainsi s'adapter aux besoins des artisans locaux. Et puis un petit mot de l'actualité institutionnelle avec les élus de la commission permanente qui étaient réunis ce matin. Ils ont notamment rendu un avis favorable sur le projet d'ordonnance portant extension et adaptation de la loi de janvier 2024 pour contrôler l'immigration en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Par ailleurs, 3 rapporteurs spéciaux ont été désignés pour des projets de loi du pays qui devraient être étudiés dans les semaines qui viennent. Il est 11h39, une première pause dans ce journal. On se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie dans un petit instant.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Le spray nasal décongestionnant pur essentiel dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est la solution naturelle à l'efficacité cliniquement prouvée. Dispositif médical, dès 3 ans, en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, pour soulager tout grasse et tout sèche, découvrez les comprimés tout pur essentiel.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec cet accident de la route ce matin vers 7h à Païta. Accident qui n'a impliqué qu'un seul véhicule qui a fait une sortie de route sur la ligne droite de Port-Laguerre dans le sens nommé à Païta. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place. Le conducteur âgé d'une trentaine d'années a été désincarcéré de son véhicule, légèrement blessé. Il a ensuite été évacué vers le Médipôle. Une circulation alternée a été mise en place par les forces de l'ordre, ce qui a fortement perturbé le trafic pendant près d'une heure. L'Institut universitaire de technologie a fêté hier soir ses 10 ans, une décennie consacrée à la formation des jeunes calédoniens pour préparer au mieux leur entrée dans le monde du travail. Depuis 2015, près de 1800 étudiants ont été formés au sein de ces deux départements de l'IUT, gestion des entreprises et des administrations et métiers du multimédia. Cet anniversaire a été l'occasion de rassembler les partenaires de cette aventure, anciens étudiants, enseignants, membres de l'université et entreprises qui ont parrainé les promotions. Une réussite collective, explique Sandrine Gravier, la directrice de l'IUT, qui se dit fière.
L'IUT est vraiment devenu un acteur important de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie. On a la chance d'avoir maintenant de nombreux diplômés, plus de 700 diplômés depuis les 10 dernières années, qui ont des parcours vraiment inspirants. Ils sont insérés professionnellement et je pense qu'on est vraiment fiers de l'IUT et de ses étudiants et de ses alumni. Ça permet de donner l'accès aux études supérieures et ça permet aussi d'avoir des formations qui répondent vraiment aux besoins des entreprises locales. Puisque cet ancrage territorial est vraiment important et vraiment marqué dans les IUT, on adapte nos programmes pour correspondre aux besoins des entreprises.
Jean Massot fait partie des anciens élèves présents hier soir pour cet anniversaire. Il a aujourd'hui 27 ans et faisait partie de la première promotion du BUT, métier du multimédia et de l'Internet. Il revient sur son parcours à l'IUT, déterminant dans sa trajectoire professionnelle.
C'était vraiment de l'exploration, de s'orienter côté multimédia. Et ce qui m'a interpellé, c'est tout ce qui est métier de l'Internet, c'est-à-dire tout ce qui est web. C'est l'IUT qui m'a fait découvrir ça et je suis resté accroché à ce métier-là. Et du coup, j'ai continué. Maintenant, je suis développeur web. J'ai travaillé quelques années avant et maintenant, je suis de retour ici à l'IUT pour essayer de gagner un peu plus en compétences. Et ce qui est assez percutant ici à l'IUT, en fait, on apporte de la modernité dans ce qui est aussi très ancien. Alors, là, on est dans des anciens bâtiments du bagne. Ça lie un peu la modernité et ça, c'est resté. C'est le cœur de l'IUT. C'est bon de voir que 10 ans plus tard, ils sont restés toujours sur cette optique-là et que ça marche finalement. Peut-être qu'il y a encore des améliorations, mais l'âme de l'IUT est restée 10 ans plus tard.
L'Institut se projette désormais sur l'ouverture d'un troisième département, génie électrique et informatique industrielle. Un élargissement vers l'industrie est prévu pour la rentrée 2027. La fête du cinéma débarque en Nouvelle-Calédonie pendant 4 jours, du 29 juin au 2 juillet inclus. L'entrée du Ciné City et du cinéma de Dumbéa sera seulement à 600 francs, Léana Colombo.
Oui, c'est la première fois que cet événement est relayé sur le territoire alors qu'il existe depuis de nombreuses années en métropole. L'occasion pour de nombreux Calédoniens de renouer avec le plaisir du grand écran, explique Douglas Hickson, responsable du Ciné City à Nouméa.
Nous avons décidé de le faire pour pouvoir redonner envie aux Calédoniens d'aller au cinéma. Le cinéma, souvent, on l'oublie un peu et c'est quand on y va qu'on passe une bonne séance, qu'on a envie d'y retourner. Quand on n'est pas allé depuis un certain temps, on oublie un peu le plaisir du cinéma, de la salle obscure et du plaisir qu'ont les enfants, du plaisir qu'ont nos aînés aussi de sortir au cinéma. Alors je dirais à tout le monde, écoutez, c'est l'occasion, jetez-vous à l'eau, allez voir un film que vous hésitiez à voir ou que vous n'auriez peut-être pas vu et renouer avec le plaisir du cinéma. Il y en a pour les petits, pour les grands, pour ceux qui aiment les films américains, ceux qui aiment les films français, donc très très variés.
L'offre est valable sur l'ensemble des films hors séance VIP. Un supplément de 300 ou 500 francs sera alors à ajouter. En plus de cette opération à prix mini, le Ciné City proposera également ce dimanche la diffusion d'un opéra, Le Barbier de Séville. Un opéra à découvrir ou redécouvrir dans les salles obscures, souligne Douglas Hickson.
On est sur un opéra, j'allais dire, plus facile, plus léger. C'est presque, je dirais, un vaudeville. Donc c'est un opéra qui, en plus, est entre guillemets en costume. Donc il y a une présentation assez classique. Cet opéra, c'est toujours le Metropolitan Opera of New York qui propose ses opéras. Et puis avec l'opéra, on propose aussi un entracte gourmand qui permet aux personnes, parce que l'opéra est assez long, il fait 3 heures, de pouvoir dîner, en fait, en même temps. Donc ça, là, c'est sur réservation. Et ça permet de passer une excellente soirée, un dimanche, une fin de dimanche après-midi. l'après-midi.
La séance débutera à 16h20. Toutes les informations et la programmation sont à retrouver sur les sites internet respectifs des cinémas.
C'est aujourd'hui la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Cette fête catholique sera célébrée dans toutes les paroisses du territoire et elle donnera lieu demain à un pèlerinage de 17 km à Lifou, depuis la tribu de Natalo jusqu'à celle de Juanono. Mais les festivités débutent dès ce soir, explique Jean-Charles Tocotoco. Il est membre de l'association paroissiale catholique de Juanono.
Comme notre saint patron, c'est le Sacré-Cœur de Jésus, la petite chapelle de Juanono, on marque sa fête, quoi. Comme la paroisse de Bourailleux, la paroisse de Médou à Marais, on marque ça sur 3 jours. On aura la messe à 17h à la chapelle de Juanono, puis après nous aurons une petite temps d'adoration pour finir la soirée. Samedi matin, on se retrouve à 5h devant la chapelle de Juanono, où les pèlerins qui désirent se rendre sur le lieu du pèlerinage, parce qu'on organise une marche comme la chapelle de Juanono. Elle a été construite par le frère César à l'époque. Et le frère César est originaire de Natalo. Il avait l'habitude de faire le chemin par le rivage, partait de Natalo, et il se rendait sur Juanono. Donc, en partant de Kenya, en passant par le bord de mer, devant Chiolé, devant la tribu de Kirinata, après on passe devant la tribu de Oshila, pour arriver enfin à la tribu de Juanono. Et à 19h30, on prévoit une veillée avec les jeunes qui ont été au rassemblement Athénée. Une petite veillée d'une heure pour finir la belle journée qu'on aura passée.
Voilà, et le départ de ce pèlerinage est prévu donc demain matin à partir de 7h à la tribu de Natalo. L'île d'Ouvéa vit, elle, depuis ce matin au rythme de la fête du Lagon, dont c'est la 16e édition. Le trail Air Calédonie d'Ouvéa se déroulera sur place, ce sera demain. De nombreux concours, conférences et débats sur les enjeux du Lagon sont aussi programmés sur ces 3 jours de fête. Et puis à Marais, c'est la fête du Wadrahawa qui se déroule à la tribu de Penelo. Un événement pour mettre l'igname des chefs à l'honneur, l'occasion de découvrir les différentes variétés d'igname ou encore l'artisanat local. Jusqu'à dimanche, 11h47, une nouvelle pause et dans un instant, c'est l'actualité en métropole, dans le monde et dans la région.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Mon Club, l'appli fidélité numéro 1 en Nouvelle-Calédonie. Dans vos hypermarchés géants et supermarchés Casino, cagnotez 10% sur plus de 1000 produits toute l'année. Oui, oui, Mon Club, c'est plus de 1000 produits remisés toute l'année dans vos hypermarchés géants et supermarchés Casino. L'application Mon Club, engagée toute l'année pour votre pouvoir d'achat. Pensez à la présenter en caisse. Remise créditée sur la cagnotte réservée aux membres Mon Club. Non cumulable avec d'autres promotions en cours, non échangeables et non remboursables. Hors alcool et produits réglementés. Application gratuite la première année, puis cotisation annuelle de 1000 francs prélevée sur la cagnotte sans lien avec votre compte.
Nouveau stock de deck cohu chez Allwoods, de 1m80 à 5m70. Et jusqu'au 30 juin, profitez des Happy Weekends. Moins 15% pour les particuliers, du vendredi 13h au samedi 11h30. Allwoods, 22 rue Descartes à Ducos ou sur Facebook.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
François Bayrou souligne le travail remarquable des partenaires sociaux. Le Premier ministre s'est exprimé sur le conclave des retraites qui s'est pourtant refermé sans réelle position commune des partenaires sociaux. Il les a d'ailleurs reçus tour à tour à l'issue de ces consultations. Il leur a laissé un nouveau délai pour trouver un accord. Sans attendre cette nouvelle échéance, le Parti socialiste a déposé une motion de censure qui ne semble pas inquiéter le locataire de Matignon, Arthur Delaborde pour Europe 1.
Avant même sa conférence de presse, les socialistes ont déposé une motion de censure. Il dénonce la méthode Bayrou sur les retraites. Réponse du Premier ministre.
Je n'imagine pas que le parti de Jacques Delors et de Michel Rocard, par exemple, pour ne citer que ceux qui ne sont plus là, puissent considérer que c'est objet de censure.
Pas convaincu, le PS persiste à brandir la censure. Le chef du gouvernement tacle aussi ceux qu'il accuse de gagner du temps, y compris dans son propre camp.
Que voulez-vous, la malveillance est plus répandue que la lucidité.
Mais l'opinion doute. Selon un sondage, 2 Français sur 3 pensent que François Bayrou ne finira pas l'année à Matignon, ce qui ne l'ébranle pas.
Mon travail, à moi, notre mission, à nous, les ministres qui sont là avec moi, c'est de répondre aux questions qui se posent et aux enjeux du pays, sans rechercher, si j'ose dire, la sécurité de l'emploi.
Sécurité de l'emploi tout de même assurée pour l'instant. La motion de censure socialiste a très peu de chances d'être adoptée. Le Rassemblement national ayant déjà fait savoir qu'il ne la voterait pas.
L'actualité en métropole, ce sont aussi ces violents orages qui ont touché plusieurs départements ces 2 derniers jours avec de fortes rafales de vent. 2 personnes sont mortes, dont un enfant de 12 ans à Piquecosse dans le Tarn-et-Garonne. Christelle Garcia est la maire de ce village.
C'était un enfant de 12 ans qui a perdu la vie hier soir suite à une chute de 2 arbres. Ce jeune homme était accompagné de ses 3 petites sœurs qui, elles, ont eu le temps de regagner la voiture. Malheureusement, lui n'a pas eu cette chance-là.
Et tôt ce matin encore, 30 000 foyers étaient privés d'électricité. Et puis le témoignage d'une mère dévastée et en colère. Pour la première fois, la mère d'Elias a pris la parole. Elias est ce garçon de 15 ans tué par 2 mineurs multirécidivistes en début d'année à la sortie d'un entraînement de football. 6 mois après les faits, sa mère parle de récupération, voire de manipulation par certains médias.
Il y a une manipulation de l'information et du meurtre d'Elias. La semaine dernière, Patrick Cohen, dans son édito politique sur France Inter, en parlant de la décision du Conseil constitutionnel, alors je vais lire ses mots, a dit « Après la mort tragique du jeune Elias, tué à coups de machette pour avoir refusé de donner son portable. » En fait, ce que fait Patrick Cohen, c'est qu'il prend parti et qu'il manipule l'information et le meurtre d'Elias en décidant, alors qu'on ne connaît pas encore la vérité, que Elias a refusé de donner son téléphone. Il réalise un biais cognitif, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si Elias avait donné son téléphone, il ne serait pas mort. Entendre Patrick Cohen tenir de tels propos, pour nous, c'est indécent.
La mère d'Elias sur le plateau de nos confrères de CNews.
En radio Rythme Bleu, 11h51.
L'actualité à l'étranger et la première prise de parole du guide suprême iranien depuis les frappes américaines sur les sites nucléaires. Ali Khamenei programme la victoire de son pays. Proclame la victoire de son pays et minimise l'impact des frappes aériennes américaines. Une opération militaire qui continue pourtant d'être vantée par l'administration Trump. Rémi Amalvi est le correspondant d'Europe 1 à Washington.
Comme après les frappes, c'est le chef du Pentagone Pete Hegseth qui s'en est chargé et il n'a pas manqué d'éloge.
Grâce à une action militaire décisive, le président Trump a créé les conditions pour mettre fin à la guerre en décimant, en anéantissant, en détruisant les capacités nucléaires de l'Iran. Le président Trump a dirigé l'opération militaire la plus complexe et la plus secrète de l'histoire, qui s'est soldée par un succès retentissant, aboutissant à un accord de cessez-le-feu et à la fin d'une guerre de 12 jours.
Difficile pour l'instant de déterminer l'état des sites nucléaires iraniens et ce qu'est devenu l'uranium enrichi. Mais le chef d'état-major américain Dan Kane l'assure, les bombes anti-bunker des bombardiers B-2 ont atteint leur cible et ont fonctionné comme prévu. Les pilotes ont déclaré, je cite, « c'était l'explosion la plus brillante que j'ai jamais vue. On aurait littéralement dit la lumière du jour », a ajouté le militaire. Pete Hegseth en est aussi pris à la presse, notamment à CNN et au New York Times qui ont fait fuiter un document interne du Pentagone selon lequel les frappes américaines auraient à peine endommagé les sites iraniens. Un comportement irresponsable selon le chef du Pentagone, pour qui les médias veulent, je cite, « créer des scandales, déformer les faits et discréditer Donald Trump ».
Les États-Unis qui vont sans doute réagir à l'annonce du gouvernement australien. Contrairement à la demande de la Maison-Blanche, il ne relèvera pas le montant de son budget consacré à la défense. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
L'Australie était vue jadis comme un allié sûr des États-Unis. L'arrivée des travaillistes au pouvoir a toutefois modifié négativement cette donne. Elle a notamment voté contre les USA aux Nations Unies et son premier ministre, Anthony Albanese, n'a toujours pas rencontré Donald Trump. Dans ce contexte, la décision prise à l'aille par les alliés de l'OTAN d'accéder à la requête du président américain qui leur demandait de faire passer leur budget défense à 5% du PIB à l'horizon 2035, a été mal reçu par Albanese, lequel a précisé qu'il déterminera la politique de défense de son pays. Son ministre de la Défense, Richard Marles, a été tout aussi explicite. « Nous évaluerons les menaces qui existent et le type de défense que nous devons construire pour répondre à ces menaces », a-t-il dit. En clair, Canberra n'a nullement l'intention d'augmenter son budget défense, qui plafonne aujourd'hui à 2% du PIB et qui devrait en atteindre les 2,33% en 2034. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
La dernière page du journal, dans un instant, sera consacrée évidemment à l'actualité sportive, avec notamment le départ des premiers athlètes calédoniens pour les mini-jeux du Pacifique à Palau.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Mais chérie, t'as pas fait à manger ?
Non.
Oh, mais t'avais dit que tu t'en occupais.
J'ai pas cuisiné, mais j'ai prévu. Je suis passé à la maison du pain.
Ah, leur vrai fait salade. J'adore.
Et maintenant, ils font les plats du jour, toute la semaine. Pratique pour le midi et même pour le dîner si t'as pas envie de cuisiner.
Retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook du complexe Le 4, situé au 186 rue Jacques-Yécaoué. Le 4, faites vos courses autrement.
Tous les dimanches, retrouvez Canal Folie, votre émission dédicace avec l'OPT. L'OPT contribue chaque jour au développement et à l'aménagement du territoire pour simplifier le quotidien de tous les Calédoniens. OPT, le monde à portée de main.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Tout le sport, en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Le sport est J-2 avant le coup d'envoi des mini-jeux du Pacifique. Une première partie de la délégation calédonienne s'est envolée pour Palau, Léo Fichou.
Oui, une vingtaine d'athlètes, nageurs, pongistes, volleyeurs, mais aussi athlètes en disport, accompagnés notamment de Christophe Dabin, président du CTOS, et également Marion Romagne, chef de mission. Ils ont décollé de Tontouta aux alentours de 8h30, c'était ce matin. Un long périple d'environ 16 heures de vol avec des arrêts à Sydney, puis à Taipei les attend avant d'arriver à Koror, au Palau, un voyage qui forge l'esprit d'équipe. Selon Moïse Kalemou, le président de la Ligue calédonienne de volley, il a accompagné les athlètes à l'aéroport ce matin.
Ils sont bien partis sur le départ d'une aventure. Ça permet aussi de se fortifier individuellement et collectivement. Ils ont le temps d'échanger pendant le voyage et aussi le mérite d'arriver sur Palau. Et ça forge l'athlète, ça forge la cohésion de passer des heures d'attente et d'arriver enfin sur Palau et d'aller chercher la compétition et aller chercher les médailles. Quoi.
Avant le départ de la délégation, Moïse Kalemou a rappelé à ses athlètes, garçons en volley indoor, filles en beach volley, de tout donner pour la Nouvelle-Calédonie et surtout de se faire plaisir.
Tout simplement donner tout, de bien représenter le pays fièrement et surtout de profiter à fond, de le vivre à fond, c'est magie, et de penser pour 2027, donc voilà. Donc d'aller à fond, de bien représenter le maillot, d'aller chercher les médailles et de se donner à fond.
La cérémonie d'ouverture des mini-jeux du Pacifique à Koror, donc au Palau, aura lieu dimanche à 20h heure de Nouméa. Elle sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube Pacifique Mini Games 2025.
Le sport en Calédonie, c'est aussi la finale ce soir de rugby de la Coupe de Calédonie à 10. Le Rugby Club Mondor sera opposé à l'Olympique de Nouméa. La finale se jouera dès 19h30 au stade Philemo Simutoga de Rivière-Salée. On passe au sport sur la scène nationale et internationale avec du tennis en Angleterre. 5 Français ont décroché leur billet pour le tableau principal de Wimbledon.
Après 3 tours de qualification, Elsa Jacquemot, Diane Parry, Adrien Manarino, Valentin Royer et Arthur Cazot rejoignent les 10 autres tricolores qualifiés directement grâce à leur classement ATP et WTA, notamment Varvara Gracheva et Hugo Humbert. Le tirage au sort du 3e tournoi du Grand Chelem de la saison à Wimbledon donc sera effectué ce soir à 20h, heure de Nouméa.
Et puis c'est cette semaine la période des championnats de France de cyclisme. À 31 ans, Bruno Amirail, déjà vainqueur en 2022 et 2024, a remporté son 3e titre de champion de France du contre-la-montre.
Il a devancé Kevin Vauquelin, victime d'une chute à quelques kilomètres de l'arrivée, et Paul Sexas, 18 ans seulement. Dimanche soir, ce sera au tour de la course en ligne. Une boucle de 16,5 km autour des Herbiers, c'est en Vendée, à parcourir 16 fois, soit 264 km. Départ prévu à 20h35 dimanche, heure de Nouméa.